Et bien, ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Stéphane Dubreuil.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique d'exposition sur Art District. Je suis au Mémorial de Caen pour visiter une exposition dont le titre est « L'aube du siècle américain ». 1919-1944. C'est une exposition qui se tient jusqu'au 5 janvier et j'ai la chance d'être avec le commissaire scientifique, le directeur scientifique de l'exposition, Clément Fabre. Vous êtes historien.
Bonjour.
Bonjour. Alors, une exposition sur l'Amérique de l'entre-deux-guerres au Mémorial de Caen, alors que se profile la célébration du débarquement, du 80e anniversaire du débarquement. Je précise que c'est une exposition dans lequel on ne parle quasiment pas du débarquement. Donc c'est un peu un paradoxe, mais pourquoi avoir choisi ce thème et pas le thème du débarquement ?
Alors, c'est peut-être pas un paradoxe, mais en tout cas un pas de côté assumé. Il y a deux raisons à ça. Déjà, la commémoration du débarquement au Mémorial de Caen, c'est compliqué parce que le Mémorial de Caen, dans ses parcours permanents, raconte déjà longuement l'histoire du débarquement, de la bataille de Normandie, les raconte bien, donc c'était difficile de proposer quelque chose de nouveau là-dessus, alors que le Mémorial s'efforce dans ses parcours permanents d'être au plus près de l'actualité de la recherche. Donc cette difficulté et aussi le fait qu'on a voulu utiliser le prétexte, en tout cas l'occasion de ce 80e anniversaire pour raconter ce qui nous paraissait être le plus important, et en discutant avec Kléber Harou, le directeur général du Mémorial, s'est imposé assez vite l'idée de raconter non pas l'histoire du débarquement, mais l'histoire de l'Amérique dans laquelle ont grandi les soldats du 6 juin.
Alors, autre question, parce que le débarquement, c'est pas que les Américains, il y a des Canadiens, des Anglais, il y a quelques Français, tout petit groupe, mais en tout cas, il y a des Canadiens et des Anglais. Alors, pourquoi ne pas avoir choisi de raconter l'Angleterre ou le Canada de l'entre-deux-guerres ?
Effectivement, ce sera pour les 90e et 100e anniversaire du débarquement, sans doute. Personnellement, j'ai trouvé que c'était effectivement plus intéressant, plus important peut-être de parler cette année de l'histoire des États-Unis de l'entre-deux-guerres, c'est qu'on a cette coïncidence entre le 80e anniversaire du débarquement et une année présidentielle, une année d'élection présidentielle aux États-Unis, où, comme dans l'entre-deux-guerres, la question de l'intervention ou non en Europe est une question à nouveau importante, une question politique de premier plan. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était sans doute plus important de donner des clés de lecture aux visiteurs du Mémorial sur cette période, cette séquence de l'histoire américaine qu'au bout du compte, ils connaissent assez peu, qu'on connaît peu et qu'en même temps on a l'impression de connaître. On a tous en tête un certain nombre d'images de cette période-là, on a tous vu les temps modernes, King Kong, on reconnaît tous les photos de Dorothée Allange et un certain nombre de figures, bien sûr, Charlie Chaplin, et en même temps c'est une période qu'on connaît très peu. Donc voilà, ce qui nous a intéressé dans cette exposition, c'était de partir de ces bribes que tout le monde a en tête pour enrichir l'histoire de cette séquence d'histoire américaine qui est si importante pour comprendre aussi le monde d'aujourd'hui.
Donc si importante parce que vous démontrez bien que l'Amérique est déjà une très grande puissance après la Première Guerre mondiale, hein, ça c'est indéniable, mais elle va le devenir encore plus. C'est un peu tout ce que vous allez démontrer, mais en montrant aussi ses faiblesses, ses divisions, ce qu'elle fait de bien, parce qu'elle fait des choses formidables, mais c'est une société qui n'est pas simple.
Effectivement, alors deux points. Déjà, cette naissance d'une puissance américaine, le titre de l'exposition, vous le rappeliez, c'est « L'aube du siècle américain ». Siècle américain, il se trouve que c'est une expression pour désigner le XXe siècle qui apparaît pendant la période qu'on raconte ici, en 1941. Henry Luce, dans un édito pour le magazine Life, utilise cette expression et l'utilise pour convaincre les Américains d'entrer dans la guerre, en leur disant qu'il est grand temps que les États-Unis endossent pleinement le rôle mondial qu'ils ont déjà commencé à jouer, et sans le savoir pour beaucoup d'entre eux. Il leur explique longuement que les États-Unis sont déjà une puissance mondiale parce que même s'ils ne siègent pas à la Société des Nations, même si un certain nombre de franges politiques affichent un isolationnisme assumé, eh bien Hollywood, les films hollywoodiens se diffusent dans le monde entier, le jazz se diffuse dans le monde entier, Coca-Cola à des succursales dans le monde entier, donc l'histoire américaine, c'est déjà une histoire mondiale.
Donc on rentre dans l'exposition par un mur assez, assez magique, parce que ce sont des affiches de cinéma tirées presque comme on les tirait jadis quand on allait au cinéma. On a un florilège de tous les grands chefs-d'œuvre du cinéma américain. Pourquoi avoir choisi de nous faire rentrer dans ce siècle et dans cette exposition par le cinéma ?
Alors, plusieurs raisons ici encore. D'abord, parce que je vous parlais tout à l'heure de ces bribes de connaissances de cette période qu'ont les visiteurs. C'est en grande partie dû au cinéma. Si on connaît quelque chose de cette période, c'est que c'est le premier âge d'or d'Hollywood, avec la production de films qui déjà sont diffusés dans le monde entier et qui pour beaucoup sont encore regardés aujourd'hui. Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est les États-Unis de l'entre-deux-guerres. Le Magicien d'Oz, c'est les États-Unis de l'entre-deux-guerres. Donc on a grandi, nous aussi, en partie en regardant certains des films que regardaient les soldats du débarquement en grandissant. Donc voilà, ce parallèle nous a intéressés et puis on trouvait que c'était une bonne idée de faire rentrer les visiteurs par ce qu'ils connaissent de cette période, par l'usine à rêve d'Hollywood. Et les visiteurs, à la fin de ce long couloir qui raconte l'histoire du cinéma américain de 1919 à 1944, débouchent dans une salle de cinéma reconstituée des années 30. Ils passent le rideau et là, on passe dans l'histoire. Donc, bon, cette mise en scène nous intéressait. C'est de la manière dont les États-Unis se sont mis en scène par le cinéma à l'histoire véritable des États-Unis. Là où ça m'intéressait aussi, personnellement, c'est que Hollywood, le cinéma, ne disparaissent pas pour autant dans les parcours de l'exposition. Parce qu'on a eu à cœur de montrer que le cinéma fait aussi pleinement partie de l'histoire de cette période-là. Lorsqu'on parle de l'émancipation féminine, on en parle notamment en se concentrant sur des actrices comme Clara Bow, Joan Crawford, qui sont un peu les vitrines de cette nouvelle émancipation féminine. On retrouve les réalisateurs dans les efforts de propagande du New Deal, dans la mobilisation de la société américaine dans le conflit. Et pour finir très rapidement sur ce point, ce qui nous a intéressé, c'est que ce couloir, les visiteurs l'empruntent également en ressortant de l'exposition. Et mon espoir, en tout cas, c'est que en ressortant de l'exposition, les visiteurs jettent un regard nouveau sur ces films qu'ils croyaient connaître et où maintenant ils retrouvent des éléments de cette histoire américaine qu'ils viennent de découvrir en profondeur.
Oui, puis pourront les voir, parce que je crois qu'il y a un très grand festival de cinéma américain, donc beaucoup de ces films, on pourra les voir en vrai.
Oui, on en profite pour effectivement organiser une rétrospective de cinéma hollywoodien.
Donc on va pas parler de tous les objets, parce qu'il y en a énormément, et puis il faut venir au mémorial pour voir l'exposition, mais il y a quelques points forts, et notamment ces points forts s'articulent autour de personnages. Bon, il y a le président Roosevelt, qui est un homme d'une immense modernité, qui va conduire le pays hors de la crise, hors de la prohibition, qui va conduire le pays à la guerre, qui va donc aussi conduire un peu le monde à la paix, hein, pas tout seul, mais il faut pas oublier les Russes et puis pas mal de gens autour de lui. Il y a Charlie Chaplin et il y a aussi John Steinbeck. Voilà, ça c'est mon dada, c'est un écrivain que je révère par-dessus tout. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de ces trois personnages, donc Roosevelt?
Bien sûr. Alors, Roosevelt, il apparaît assez tard dans l'exposition. Notre exposition, elle est sur deux étages. Un rez-de-chaussée sur les années 20, où justement, le politique est volontairement absent parce que c'est une décennie de relatif laissé-faire, avec un pas en retrait de l'État fédéral dans la vie américaine. On arrive à l'étage, en plein cœur de la Grande Dépression, en pleine élection présidentielle de 1932. Et là, on met en valeur Franklin Delano Roosevelt, donc président élu à 4 reprises, un record indépassable dans l'histoire politique américaine, 32, 36, 40 et 44. Peu de temps après sa mort, d'ailleurs, un amendement vient empêcher de rester au pouvoir aussi longtemps. Et de fait, il y avait eu beaucoup de critiques sur un usage quasi dictatorial du pouvoir présidentiel pendant ces différents mandats. Roosevelt, donc, nous a intéressés à la fois parce qu'il incarnait ce retour du politique au premier plan à la faveur de la Grande Dépression, et puis bien sûr parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire des États-Unis des années 30 sans plonger dans la manière dont il impose une nouvelle politique aux États-Unis, la politique donc qu'on connaît sous l'appellation de New Deal, qui est un peu trompeuse dans son homogénéité, parce que voilà, c'est de 1933 au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, on a toute une série de phases, d'étapes différentes dans cette vie politique américaine. Mais voilà, toujours est-il que Roosevelt est le point stable de cette histoire politique. Et effectivement, en vis-à-vis de Roosevelt, dans les tâches de l'exposition, on a la figure de Charlie Chaplin, donc le réalisateur, l'acteur, la plus grande star des États-Unis de l'entre-deux-guerres, qui se fait connaître d'abord à l'époque du cinéma muet, avec son personnage de Charlot, qui incarne aussi... d'une certaine manière, qui donne une visibilité à des parties de la population qui ne se retrouvent pas totalement dans cette Amérique de la prospérité, puis qui subissent de plein fouet le déclenchement de la crise. Contrairement à beaucoup d'autres, il réussit le passage au parlant, et la séquence la plus développée autour de Chaplin s'intéresse à son film Le Dictateur, qui est extrêmement important parce que ça fait partie, la production du film The Great Dictator de Charlie Chaplin, ça fait partie du tournant, où, le moment où les États-Unis finissent par rentrer dans la Seconde Guerre mondiale, après y avoir relativement résisté. Que ce soit au moment où les hostilités se déclenchent en Asie orientale à partir de 1937 ou après 1939 en Europe. Il faut attendre bien sûr Pearl Harbor fin 1941 pour que les États-Unis rentrent en guerre, mais il n'y a pas uniquement Pearl Harbor, il y a les efforts du président Roosevelt pour convertir la population américaine à l'interventionnisme, et il y a ce film marquant qui moque le dictateur nazi et qui assume, à une époque où c'est difficile à Hollywood de produire des films anti-nazis, qui assume un positionnement franchement anti-nazi au cinéma.
Alors avant de parler de Sandbeck, je dois dire qu'il y a un montage qui est assez convaincant sur Charlie Chaplin et le dictateur, c'est qu'on a un discours d'Hitler avec la voix d'Hitler, et en parallèle on a un discours de Hinkel en train de il parle pas d'ailleurs, il vocifère. C'est assez génial, parce qu'on comprend le génie de Chaplin, on comprend aussi, on voit comment il a dû travailler. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, quoi.
Effectivement, il est servi par sa moustache qui crée un parallèle avec Hitler, mais c'est aussi effectivement tout le génie de Chaplin de réussir à ce point à imiter le dictateur et à faire un film comique autour de quelque chose qui profondément n'amuse pas Chaplin. C'est ça tout le génie de ce film.
Donc il faut parler de Sandbeck.
Il faut parler de Sandbeck.
Il y a d'autres écrivains dans l'exposition, hein. Il y a Fitzgerald, il y a Dos Passos, mais il y a quand même Sandbeck, qui est l'auteur des Raisins de la colère, des Souris et des Hommes. Enfin voilà, c'est un immense génie qui raconte l'Amérique d'une façon, je pense, on ne l'a jamais aussi bien raconté que lui, quoi.
Oui, Steinbeck, pour nous, c'était inconcevable de raconter cette période de l'histoire américaine sans raconter Steinbeck. Et ce qui nous a permis de rentrer vraiment dans le personnage, c'est qu'on a eu la chance, parmi les nombreux partenaires américains avec lesquels on a fabriqué cette exposition, on a eu la chance de pouvoir travailler avec le National Steinbeck Center de Salinas, en Californie, où je me suis rendu avec Kléber Haroul, où on a rencontré des conservateurs, des archivistes qui ont passé leur vie à travailler sur Steinbeck et qui ont accepté de mettre à disposition de l'exposition une édition originale des Raisins de la Colère, les articles aussi préparatoires aux Raisins de la Colère, mais j'y reviendrai aussi, des éléments sur une phase moins connue de la vie de Steinbeck, son action pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, Steinbeck, on le connaît surtout pour les Raisins de la Colère, qui paraissent à la fin des années 30 et qui tournent autour de l'épisode sans doute le plus dramatique de la Grande Dépression, le drame du Dust Bowl, des migrants, des Hokies, les migrants des plaines du Midwest américain. Très rapidement, il se trouve que 1929, l'économie américaine s'effondre, une très grande partie de la population se retrouve au chômage, et parallèlement à cette catastrophe économique, les grandes plaines du Midwest américain, qui ont été érodées tout au long des années 20 par une agriculture trop intensive, sont frappées par d'immenses tempêtes de poussière qui charrient la poussière de ces plaines jusque sur les deux côtes, dans les cas les plus extrêmes, et qui forcent finalement à l'exode les fermiers de ces plaines, qui pour beaucoup partent travailler comme saisonniers en Californie. Et si Steinbeck par enquêter sur les conditions d'accueil de ces migrants en Californie, c'est que c'est une facette de la crise que les Américains de l'époque eux-mêmes connaissent assez mal, connaissent assez peu. Et d'ailleurs, quand ces articles paraissent, où ils décrivent la misère, où ils décrivent aussi l'exploitation dont ils sont victimes de la part d'un certain nombre d'acteurs économiques californiens, toute une partie de la population n'y croit pas. On le traite on l'insulte d'être un suppôt du communisme. Bref, je ne vais pas partir dans...
l'américaine, quoi.
Exactement. Mais donc, bref, c'est un moment important dans ce qu'on a voulu raconter autour du New Deal, qui était les efforts de l'administration Roosevelt et d'un certain nombre d'autres acteurs, notamment des artistes, pour faire prendre conscience aux États-Unis de l'ampleur de la guerre, de la crise, pardon, et donc légitimer, justifier les moyens mis en œuvre pour lutter contre cette crise. Et donc ça passe par les romans et les articles de Steinbeck, ça passe aussi par les photographies très célèbres de Dorothée Lange, d'un certain nombre d'autres photographes de la Resettlement Administration, qui jouent un rôle important, central, dans cette prise de conscience américaine de la dureté de la crise.
C'est aussi des gens, on pense au film de John Ford, qui est pareil, un immense chef-d'œuvre, hein, mais tous ces photographes donc de la Farm Security Administration, c'est aussi des gens qui vont inscrire cette histoire américaine dans notre mémoire visuelle.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai interviewé un auteur de bande dessinée qui a fait une bande dessinée sur le blues et sur Robert Johnson. Toute sa documentation provient de ces photographes. Donc c'est aussi la mémoire mondiale, en fait, qui rentrait dans nos cerveaux par l'Amérique. Quand on vient, on a du Disney, on a le premier film de Mickey, on a un petit peu de comics, on a les Japonais qui sont enfermés dans des camps en 1942, après Pearl Harbor, on a aussi toute la fin, toute la propagande américaine qui est assez extraordinaire, il y a des jouets, tout ce qu'on connaît actuellement a été inventé quasiment à cette époque-là. Pour finir, quel objet vous tient particulièrement à cœur dans l'exposition, s'il y en a un?
J'en citerai peut-être deux.
Bon, les deux, alors.
Deux. Un, c'est une planche de surf. Une planche de surf, une holoboard de Thomas Blake, donc un modèle de planche de surf qui est inventé dans les années 20. Le surf apparaît à Hawaï fin 19e siècle. Dans les années 10, on commence à faire quelques démonstrations de surf sur les plages californiennes. Et les années 20, c'est vraiment le moment où le surf s'impose au cœur d'une nouvelle sous-culture californienne, toute d'insouciance, de sport, de corps bronzé. Bref, un imaginaire, là aussi, promis à un bel avenir. Donc, effectivement, exposer cette planche de surf magnifique, longue de près de 5 mètres, dans une exposition de commémoration des 80 ans du débarquement en Normandie. Voilà, c'est peut-être un des points sur lesquels on poussait le plus loin le pas de côté. Donc je tiens à cet objet-là, effectivement. L'autre objet, beaucoup plus proche de l'histoire de la guerre, de Pearl Harbor, des débuts du conflit, c'est un kimono pour enfants. Un kimono pour enfants qu'une mère internée dans les camps d'internement des résidents d'origine japonaise aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale fabrique pour son enfant, né lui-même dans un camp en 1942. C'est un épisode assez méconnu, ces camps d'internement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Une des conséquences de l'attaque de Pearl Harbor, qui précipite l'entrée en guerre, mais qui a aussi pour effet toute une série de mesures visant les résidents d'origine japonaise aux États-Unis parce qu'ils deviennent suspects d'intelligence avec l'ennemi. Et voilà, cet objet, qui est un objet fort que le Musée national d'histoire américaine a bien voulu nous prêter parmi d'autres pièces qui évoquent cette histoire des camps d'internement. Voilà, cette pièce, pour moi, elle compte, elle est commentée dans les parcours de l'exposition par une conservatrice du musée. Elle compte parce que c'est véritablement un point sur lequel on a poussé, là pour le coup, le plus loin, la construction de l'exposition au plus près des partenaires américains avec lesquels on a travaillé. C'est un élément au cœur de travaux récents et on a tenu à ce que ce soit aussi dans l'exposition.
Mais Clément, je vous remercie, c'était passionnant, mais il faut venir maintenant à Caen pour voir l'exposition. Donc je redonne le titre, L'aube du siècle américain, 1919-1944. C'est jusqu'au 5 janvier, c'est donc au Mémorial des Camps, et il faut venir parce qu'il y a aussi festival de jazz, de cinéma, enfin, il y a foultitude d'événements connexes avec l'exposition. Et donc je vous dis à bientôt peut-être pour une autre exposition.
À bientôt.
Merci.
Eh bien, ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Stéphane Dubreuil.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.